Il a commis chez nos confrères du Figaro une tribune qui a attiré notre attention. C'était le 9 novembre dernier. Elle s'intitule cette tribune « Covid-19, nous vivons un renversement anthropologique sans précédent. En cause, selon le philosophe Robert Heidegger, le confinement et la kyrielle d'interdiction qui s'ensuit. » Alors nous avons la chance d'avoir Robert Heidegger tout proche de nous et toujours disposé à nous répondre. Bonjour Robert Heidegger.
Bonjour, ce n'est pas de la chance pour vous, mais pour moi, et un plaisir par ailleurs.
Ah, oh, comme c'est gentil. Alors, cette tribune, Robert, c'est un pavé dans la mare, hein, dans laquelle vous opposez la sagesse ancestrale et la gestion actuelle de l'épidémie. Il va falloir nous rappeler ce que nous enseigne la sagesse ancestrale.
Oh, cette sagesse, sans doute, certains d'entre nous, parmi les auditeurs, en ont encore connu les restes lorsque nous étions enfants, lorsque nous voyions à l'époque nos parents se saigner les quatre veines pour que les enfants vivent un peu mieux ou bien mieux. Mais c'est beaucoup plus profond, je crois. Sagesse ancestrale, ça veut dire de toute mémoire. Il en a été comme ça dans toute l'histoire de l'humanité. Alors je crois que c'est plusieurs choses. C'est d'abord reconnaître que nous ne sommes qu'un maillon dans une goutte d'eau ou dans un fleuve qui s'écoule, fleuve qui s'appelle la famille, la société, la vie. Et il me semble que dans le cadre de cette sagesse ancestrale, cette perception du maillon était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Et l'une des difficultés que nous avons avec la maladie vient de la perte de ce sentiment-là. C'est aussi de sagesse ancestrale de reconnaître, d'avoir toujours reconnu que le rôle de chacun d'entre nous n'est pas absolu, que chacun d'entre nous n'est pas le tout. C'est-à-dire que je ne suis pas la fin et le but de ma propre existence. Que la fin et le but, c'est toujours quelque chose de plus grand que moi, qui me transcende, qui est au-delà de moi et dans quoi finalement je baigne. Et c'est aussi autre chose que nous oublions, que ce renversement anthropologique oublie, c'est de reconnaître que la priorité est à l'avenir. Voilà. Qu'on n'a pas le droit d'arrêter le fleuve de la vie en empêchant des générations entières de vivre et en faisant ce que nous faisons aujourd'hui, qui est aussi une sorte de sacrifice économique, parce que l'arrêt de l'économie pendant un an, ce sera quelque chose qui sera payé très cher par des générations qui seront là dans 5 ou 10 ans ou 15 ans, quand moi en tout cas, nous ne serons plus là. Donc, parce que la vie, nous oublions ceci, la vie est faite pour ceux qui viennent après
C'est
nous.
le fameux, c'est le fameux, il faut que je diminue pour qu'il croisse, c'est ça que vous voulez
Voilà,
dire?
voilà. La vie, c'est un chemin que l'on prépare pour ceux qui y suivent, qui viennent derrière et après nous. Or, il est remarquable que cette affaire arrive à un moment, et je crois que c'est lié, que ça consonne, à un moment où on se soucie très peu de transmission. On voit dans quel état est l'école. Voilà. Et donc, on se soucie très peu de transmission, ça veut dire que nous perdons la déontologie générationnelle qui était à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui.
Robert
Donc,
Heidegger, pour être très concret et très pragmatique, qu'est-ce qui, dans la gestion actuelle du Covid, vous fait penser que nous sommes en train ou nous allons à l'encontre de cette sagesse des parents qui, pour reprendre votre expression, se saignent aux quatre veines, jusqu'à parler de renversement anthropologique?
oui, deux choses. Donc, premièrement, nous appauvrissons les générations qui vont venir. Nous les appauvrissons par l'arrêt de toute activité économique, surtout des petites et moyennes entreprises, c'est quelque chose que l'on pourrait interroger d'ailleurs. Et cet arrêt, c'est ce qui sera financé par les générations suivantes, parce que n'oublions pas que nous continuons de payer, alors qu'il n'y a plus d'activité, nous continuons de payer sur des crédits qu'il faudra rembourser à l'avenir, ceux qui ne travaillent pas, ceux que l'on empêche de travailler. Donc, premièrement. Et deuxièmement, il y a quand même un droit à la vitalité, c'est-à-dire un droit à une pleine vie pour les générations qui nous suivent, pour les générations qui sont plus jeunes que nous. Donc, un droit au plaisir de la vie. Un droit également à avoir ses amis, à faire la fête, à aller à la messe, à aller à la pêche à la truite, enfin toutes ces choses-là que nous avons arrêtées. Et je crois que cela, c'est un véritable renversement anthropologique parce que ce n'est pas une priorité qui est donnée à la vie. On nous dit que c'est une priorité à la vie, mais c'est faux. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que il y avait un problème de transmission. Moi, je crois que cette attitude manifeste une crise de la transmission qui, dans le fond, est une crise de la vie. Qu'est-ce que je veux dire? Ben, je veux dire que nous sommes aujourd'hui incapables, ce noyau, incapables de voir la maladie comme une préparation et un chemin qui mène vers la mort. Voilà. C'est cela que nous ne voulons plus
Mais
voir.
Robert Redeker, la critique, vous le savez, la critique est aisée, l'art est difficile. Est-ce que vous pouvez imaginer une société qui eût fait le choix de sacrifier ses aînés, puisque c'est de ça qu'on parle, en quelque sorte?
Ce n'est pas les sacrifier, c'est ce dont je parle, c'est ne pas sacrifier la jeunesse et ne pas sacrifier la vitalité. Ça n'est
Mais quelle
pas
alternative?
incompatible. C'est-à-dire, ce n'est pas l'un ou l'autre. Il me semble que ce qui est très intéressant dans la situation actuelle, très intéressant à observer, c'est que justement, on nous a placés dans une alternative. Et on nous a placés dans cette alternative cruelle parce que nous ne savons plus voir la maladie comme quelque chose qui mène à la mort. Il n'y a plus de pensée de la maladie. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une sorte de fascination devant la médecine et la technique médicale qui doit réussir à tout prix. Et cette fascination devant la technique médicale, je crois, a évacué à notre esprit une perception plus saine de la maladie. Il faut bien mourir, il faut bien la maladie pour aller vers la mort. Bon, cela, nous ne le pensons plus. Alors, du coup, qu'avons-nous sous les yeux? Je reviens un peu sur votre question de tout à l'heure. C'est le rapport aux autres qui est complètement transformé, qui est complètement virtualisé. D'un côté, on nous dit, voilà, il ne faut plus vivre comme vous viviez jusqu'ici pour protéger les autres, mais en même temps, ces autres, puisqu'on nous isole les uns des autres, ces autres, on les virtualise complètement. C'est-à-dire, on virtualise le rapport aux autres tout en nous disant, c'est par solidarité. Je ne crois pas que l'ancien rapport aux autres sera retrouvé. Au contraire, l'avancée des technologies, de l'Internet, ainsi de suite, dans toutes les habitations, dans toutes les maisons, le télétravail, les réunions par Zoom, etc., avancées qui s'accélèrent à l'occasion de cette pandémie, eh bien, ce sont des choses qui ne. On ne reviendra pas en arrière. Donc, on a franchi un pas dans la virtualisation du rapport à autrui, sous prétexte de protéger autrui. Et c'est quel en sera le résultat? Eh bien, notre vie sera plus abstraite. Les autres seront moins tactiles, plus idéaux. C'est-à-dire, ce seront des idées. Voilà, lorsque je suis chez moi, dans une sorte de télétravail, devant les écrans, comme beaucoup d'entre nous, les autres, ce sont des idées et des images. Le tactile a
Robert
disparu
Redeker, vous dites que
au
vous ne
profit
voulez
du
pas
végétal.
opposer, Pardonnez-moi, vous dites que vous ne voulez pas opposer la jeunesse et les aînés. Qu'eût-il fallu faire face à la maladie? Donc, on comprend que le confinement, ce n'est pas la bonne solution. Qu'eût-il fallu faire, selon vous?
Comment a-t-on fait, c'est-à-dire les épidémies longent toute l'histoire de l'humanité. Elles sont nos sœurs, en quelque sorte, depuis les origines. Elles ont servi aussi à nous rendre, à nous donner de l'immunité par rapport à beaucoup de maladies. Elles ont servi à nous rendre plus forts. Il faut savoir cela. L'humanité se renforce des épidémies mortelles, c'est biologique, qu'elle a connues dans son histoire. Alors, qu'eût-il fallu faire? Sans doute pas laisser faire. Mais comment a-t-on fait, par exemple, en 1968 et 69, lors de la fameuse grippe de Hong Kong, qui proportionnellement, c'est-à-dire par rapport à la population à l'époque en France, a tué beaucoup plus de monde? On soignait, on isolait certaines personnes. Depuis, des progrès ou des avancées ont été faites et je crois que l'on pouvait développer beaucoup plus dès le début les gestes barrières, les masques, tout en sachant que la vie collective implique un certain risque, tout en sachant que les virus font partie de la vie et que l'on ne peut jamais s'en protéger complètement. Voilà. Je crois que dans ce qui vous arrive, il y a aussi cette histoire-là. C'est-à-dire, nous avons abandonné le savoir que vivre, c'est risquer d'attraper des maladies, donc risquer de mourir de ces maladies. C'est-à-dire, il y a une part de risque que nous refusons désormais.
Est-ce qu'avec André Comte-Sponville, un autre philosophe, vous diriez, comme il l'a déclaré chez nos confrères de RMC, que les morts ne se valent pas, il est plus triste de mourir à 20 ans qu'à 81 ans?
Je crois que toutes les morts sont les mêmes. Bon, et que la vie et la mort, ce n'est pas une question de quantité. Parfois, parce que je suis assez en désaccord avec lui, sur ce point, la vie, ce n'est pas une somme d'expériences, d'intensité, de choses que nous avons à vivre ou à ne pas vivre. Voilà. La vie, c'est la vie. Et elle est assez longue et assez courte pour tout le monde. Donc, d'un point de vue philosophique, je crois que toutes les vies sont égales. Mais d'un point de vue anthropologique, la chose est un peu différente dans la mesure où les aînés doivent s'effacer devant ceux qui arrivent et à qui ils ont préparé le chemin. Voilà, donc c'est un peu plus nuancé que ce qu'a dit le philosophe que vous venez de citer.
Les aînés doivent s'effacer. Est-ce que vous vous rendez compte, Robert Redeker, de ce que peut avoir de violence, ce que peuvent avoir de violence ces mots dans les oreilles de nos auditeurs qui nous écoutent, qui parfois n'ont pas choisi cette situation et qui vivent mal probablement cette opposition et cette stigmatisation qu'on peut faire de leur sort?
Mais on ne choisit pas la vie, on ne choisit pas la mort. Et cela peut choquer, si vous voulez, par rapport à nos préjugés contemporains, qui sont ceux de la modernité tardive. Mais je crois que ce que je suis en train de dire repose sur un étonnement, c'est-à-dire sur l'étonnement de ce qui a toujours valu dans l'humanité, soit aussi facilement renversé. Il faut quand même qu'il y ait eu une profonde modification de la perception de la vie pour que l'on ne se rende pas compte qu'il y a un renversement. Donc, je crois que ce côté choquant ou scandaleux se gomme dès que l'on prend un peu de recul. Et à ce moment-là, on se dit que ce renversement paraît dangereux pour l'espèce humaine, à une époque où les évidences anthropologiques sont toutes bousculées. On pourrait parler, ou nous l'avions fait ensemble à ce micro, des lois de bioéthique, vous voyez, des choses comme ça. Donc toutes les évidences anthropologiques sont bousculées, et aussi celles-ci. Alors elles sont bousculées dans le désordre, de façon qui peut paraître contradictoire et paradoxale, mais c'est quand même un grand tremblement de terre dans l'humain à quoi nous assistons.
Eh bien, merci beaucoup, Robert Redeker. Je rappelle que vous êtes philosophe, un philosophe ami de la radio. Un grand merci pour ces propos, un renversement anthropologique sans précédent. Ces propos font écho à une tribune que vous avez adressée au Figaro. Merci beaucoup.
Merci pour votre invitation et n'oubliez pas le radiodon.